Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François en visite pastorale au Brésil, le cœur rempli de joie à l'occasion des 28e Journée mondiale de la jeunesse. C'est son premier voyage international depuis son élection il y a un peu plus de 4 mois. Le premier pape latino-américain de l'histoire s'efforcera de redynamiser la foi catholique talonnée dans cette région du monde par la poussée des églises évangéliques pentecôtistes omniprésentes et très actives dans les grandes villes et leurs périphéries déshéritées. Il exhortera les jeunes à l'espérance et un nouvel élan. Missionnaire, c'est bien sûr la une de ce magazine. Vous entendrez également le vicaire patriarcal des Coptes catholiques d'Alexandrie, Mgr Golta. La commission de révision de la constitution égyptienne s'est réunie pour la première fois dimanche, malgré les protestations des frères musulmans. Rio de Janeiro en fête. Depuis dimanche, des milliers de jeunes pèlerins arborant les drapeaux de leur pays ont envahi joyeusement la ville pour accueillir le pape François. L'église brésilienne et la présidente Dilma Rousseff, ex-membre de la guérilla marxiste, avaient lancé des invitations à tous les présidents du continent latino-américain. Fidèle à sa réputation de simplicité, le Saint-Père a choisi de commencer son voyage en saluant la foule dans le centre de Rio, à bord d'une voiture découverte de la cathédrale métropolitaine au théâtre municipal avant de se consacrer au rendez-vous protocolaire. Les JMJ proprement dites seront inaugurées mardi soir à Rio de Janeiro où elles se poursuivront jusqu'au 28 juillet. La messe d'ouverture sera présidée à 00h30 heure locale par l'archevêque de Rio, Mgr Tempesta, tandis que la messe conclusive sera présidée par le Saint-Père dimanche à 10h heure locale toujours. C'est jeudi soir que le souverain pontife entrera dans le vif des JMJ lors d'une fête d'accueil sur la célèbre plage de Copacabana. Le pape François a par ailleurs tenu à imprimer sa marque personnelle sur ce déplacement en ajoutant une étape au sanctuaire marial d'Aparecida, à mi-chemin entre Rio et Sao Paulo, et des rencontres avec les derniers en se rendant dans une favela, dans un hôpital et dans une prison. Ainsi, mercredi, à Aparecida, il confirmera sa dévotion mariale et confiera à la Vierge les JMJ et son pontificat, puis il visitera une unité hospitalière qui accueille en particulier des alcooliques et des toxicomanes au crack. Jeudi matin, dans une des zones les plus pauvres et dangereuses de la gigantesque métropole, il visitera à pied un bidonville tristement connu pour ses affrontements violents entre policiers et trafiquants de drogue et en partie pacifié dans le cadre d'un programme gouvernemental. Vendredi, il rencontrera des jeunes détenus. Olivier Tosserie est notre envoyé sur place.
Un pape ne peut renoncer à rencontrer les jeunes. C'est ainsi que François a confirmé ce premier voyage international prévu par son prédécesseur. Ils seront plus de 2,5 millions venus de 170 pays à répondre à l'appel de ces JMJ. Aller de toutes les nations faites des disciples, un thème qui trouve un écho tout particulier en cette année de la foi, un thème qui se prête tout particulièrement au pays d'accueil, le Brésil. Premier pays catholique au monde avec 120 millions de fidèles, il brasse des dizaines de confessions chrétiennes qui se livrent une concurrence acharnée. Le Brésil, c'est aussi le pays où s'est tenue la 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain à Aparecida en 2007. Le document conclusif a donné les lignes directrices pour redynamiser la foi sur le continent. Le responsable des travaux n'était autre que l'archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio. Il revient 6 ans après en tant que pape, mais pour un pèlerinage pour et avec les jeunes. Les JMJ se nourrissent des ingrédients de la vie chrétienne, partage, prière, vie communautaire, l'occasion de conforter des jeunes dans leur foi et permettre à d'autres de la rencontrer. Les JMJ de Rio s'annoncent comme un dialogue entre plusieurs expériences de foi, mais surtout entre le pape et la jeunesse. François ne délivrera pas un message, mais plusieurs messages. En visitant un hôpital et une favela, il rappellera le thème qui lui est cher, celui de transmettre le Christ jusque dans les périphéries. Dans un pays en pleine effervescence sociale et économique, il exprimera l'obligation que la mondialisation ne soit pas une mondialisation de l'égoïsme, mais c'est surtout un message d'espérance et de confiance qu'il délivrera à des millions de pèlerins impatients de le rencontrer.
Pendant le vol Rome-Rio, le pape François a confié aux journalistes son inquiétude à propos de la situation de l'emploi des jeunes et du rejet des personnes âgées. La conférence de presse traditionnelle avait été supprimée, mais le Saint-Père a demandé aux journalistes de l'aider pour le bien de la société. Thomas Chabol.
Le pape François n'aime pas donner d'interview. Pour moi, c'est un peu fatigant, a-t-il dit, tout en reconnaissant avec son humour habituel qu'au fond, les journalistes ne sont pas des lions si féroces que cela. C'est donc une brève entrée en matière qui a remplacé la conférence de presse habituelle. L'occasion pour le Saint-Père de dire son inquiétude au sujet des jeunes d'abord. Selon lui, on risque d'avoir une génération entière de jeunes sans travail. Or, cette grave situation a des retombées non seulement économiques mais aussi morales, car c'est du travail que naît la dignité personnelle de gagner son pain. Le pape François a fustigé la culture du rejet à laquelle nous sommes accoutumés. On le fait souvent avec les personnes âgées, a-t-il noté. On les met de côté comme si elles n'avaient rien à nous donner, alors qu'elles nous transmettent la sagesse et les valeurs de la vie, l'amour de la patrie et de la famille, autant de choses dont nous avons besoin et maintenant les jeunes sont mis à l'écart à leur tour. Pour le pontife argentin, il est urgent de promouvoir une culture de l'inclusion et de la rencontre. Le pape François a confié qu'il comptait exhorter les jeunes participants au JMJ à ne pas s'isoler mais à s'insérer dans le tissu social. Les jeunes sont l'avenir parce qu'ils sont forts et peuvent aller de l'avant, a-t-il dit. Mais à l'autre extrême de la vie, les personnes âgées sont aussi l'avenir des peuples parce qu'elles détiennent la sagesse de la vie.
Et le pape François a salué un par un les 70 journalistes présents à bord de l'avion papal. Les Italiens sont les plus nombreux, suivis des Brésiliens et des Américains. 9 journalistes francophones accompagnent le Saint-Père dans ce voyage. Dès le début, le pape François a posé un nouveau geste de rupture par rapport à la pompe pontificale en portant lui-même son bagage à main, un sac noir qu'il n'a jamais quitté, y compris pendant son entretien avec le chef du gouvernement italien Enrico Letta, venu le saluer à son départ de Rome à l'aéroport. Le Brésil qui accueille le pape François et les JMJ est en proie depuis quelques semaines à la colère sociale contre l'indigence des services publics et la corruption dans le pays, un aspect auquel le pape François, apôtre d'une église missionnaire et proche des pauvres, ne peut pas rester indifférent, lui qui s'est déjà élevé contre la tyrannie de l'argent et les élites irresponsables. Les autorités locales sont donc sur les dents, 30 000 policiers et militaires vont veiller à la sécurité du pape et des JMJ, la plus grande opération sécuritaire de l'histoire de Rio. Reste que ce pays, de la taille d'un continent, est passé en quelques années du stade de pays en voie de développement à celui de 6e puissance économique mondiale, se classant désormais devant le Royaume-Uni, l'un des plus dynamiques du fameux groupe BRIC, dont font également partie la Russie, l'Inde et la Chine. Avec une population jeune et nombreuse, d'abondantes ressources naturelles et une croissance autour de 5%, le Brésil s'impose comme le leader économique de l'Amérique latine. Or, cette émergence n'est pas fortuite. Elle procède depuis près de 20 ans de la volonté de ses dirigeants politiques de stabiliser le Brésil économiquement. Retour sur cette réussite avec Denis Roland, historien français, spécialiste des relations internationales et de l'Amérique latine, recteur de l'Université de Guyane.
C'est une croissance qui a des fragilités encore, mais beaucoup moins que d'autres économies des pays émergents, dans la mesure où il y a un véritable capitalisme brésilien, dans la mesure où il y a une vraie foi dans les investissements au Brésil. C'est une économie qui est capable de rebond, qui a compris l'intérêt aussi de développement partenariaux avec les autres économies du Sud, qui s'est aujourd'hui définitivement placée en cœur de l'Amérique du Sud, hein, avec des bases très réfléchi, très raisonné, en évitant tout élément qui apparaisse comme trop hégémonique. Donc je pense que c'est une économie sérieuse et capable de surmonter et sous ressaut des crises importées, hein, comme on l'avait vu pour l'impact de la crise russe, l'effet tequila, ou des crises asiatiques, et aussi il y a quand même des ressources considérables. Les perspectives d'exploitation pétrolière sont absolument considérables au Brésil. Donc là, c'est des garanties pour l'avenir.
Cette croissance économique prodigieuse de ces dernières années a permis de résoudre quelques inégalités. Elle en a créé de nouvelles. Qu'en est-il sur ce plan-là ?
Il y a quand même eu émergence d'une classe moyenne considérable et les inégalités ne sont certes pas réduites au Brésil, mais il y a eu une progression qui a touché, notamment sous la période Lula et maintenant sous la période Dilma Rousseff, qui a touché pratiquement tout le Brésil. Les sort n'a pas réduit les inégalités, mais a fait sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté. Donc ça, c'est quand même l'une des choses que l'on doit retenir, tout en disant que le Brésil était l'un des pays les plus inégalitaires au monde et le demeure aujourd'hui.
Des propos recueillis par Olivier Tosserie. Sur notre antenne, le cardinal brésilien Odilo Scherer, archevêque de Sao Paulo, a souhaité une meilleure distribution des ressources du Brésil et des fruits de ce développement économique. Les pauvres sont toujours très nombreux et une grande partie de la population, a-t-il dit, ne bénéficie pas des succès économiques engrangés par le Brésil. Pour l'église locale, les JMJ et la présence du pape François sont aussi l'occasion d'attirer l'attention sur des questions qui lui tiennent à cœur, telles que l'injustice sociale et l'écologie. Depuis Denver, en 1993, les problématiques liées à l'écologie et au développement durable ont toujours été évoquées à l'occasion des JMJ. Or, les organisateurs prévoient de faire des JMJ de Rio un exercice à large échelle pour appliquer les conclusions de la conférence des Nations Unies sur le développement durable qui s'est tenue l'année dernière dans la cité carioca. Une exposition sur la sauvegarde de la création a été inaugurée le 9 juillet dernier, tandis qu'un congrès rassemblant quelques 500 jeunes a démarré ce lundi à l'initiative d'une ONG catholique américaine Creatio qui s'efforce d'éduquer les nouvelles générations au respect de l'environnement. Le 24 juillet, le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, tiendra une conférence sur le magistère de l'Église en la matière. Un manifeste pour la sauvegarde de la création sera par ailleurs lancé mercredi, toujours à Rio. Au total, près de 5500 jeunes Français sont attendus à ces JMJ. Certains sont déjà sur place pour préparer ces journées. C'est le cas de Simon. Il a 25 ans, originaire de Dijon. Il est arrivé au Brésil il y a 5 mois. Il est coordinateur pour les traductions vers le français.
Moi, je fais ça surtout pour prendre ce temps de service au service de l'Église, quoi, et me donner à fond. En fait, j'ai vécu 2 ans à Mendoza, en Argentine, avec les jésuites, avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Donc, je connais bien la réalité sud-américaine pour avoir travaillé dans des bidonvilles ou avec des gens qui vivent dans la rue. En France, à Sciences Po Grenoble, j'ai pris des cours de portugais, brésilien, et je suis arrivé le 25 février ici. Je suis dans l'équipe de traduction ici. Le français, c'est une des 7 langues officielles des JMJ. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des différences au niveau de la culture de travail, mais comme je vous ai dit, ce qui nous rassemble ici, nous tous avant tout, c'est travailler pour le Seigneur, pour l'Église. On est unis par le Christ, on partage les sacrements, la prière, et on va au-delà de nos différences culturelles, de travail, et il y en a beaucoup. Donc c'est une belle expérience aussi de fraternité.
Des propos recueillis par Marino Dacher. Le cardinal Philippe Barbarin, quant à lui, ne participera pas au JMJ comme il l'avait initialement prévu. L'archevêque de Lyon a été victime d'un double malaise cardiaque dimanche à Cayenne, qui a nécessité son transfert dans un hôpital de Martinique où il a subi une série d'examens. Son état, indique le diocèse de Lyon, n'est pas considéré comme inquiétant. Le cardinal Barbarin était arrivé jeudi dernier à Cayenne, où il avait rejoint quelques 700 jeunes pèlerins français originaires de Lyon, de la région parisienne, des diocèses d'Évreux et de Cayenne, eux-mêmes bloqués dans la capitale guyanaise en raison d'un problème d'avion. L'appareil qu'ils avaient affrété pour se rendre au Brésil est tombé en panne et est resté bloqué à Sao Paulo, obligeant les jeunes catholiques à trouver une solution de rechange auprès d'une autre compagnie. La délégation française au JMJ avait déjà été endeuillée par le décès d'une parisienne de 21 ans, tuée dans un accident de la route, alors qu'elle se trouvait à bord d'un car en Guyane. Le primat des Gaules avait adressé un message de soutien aux jeunes participants français au JMJ, touchés par une onde de choc. Alors comment les 700 pèlerins français bloqués dans la capitale guyanaise ont-ils vécu ces heures d'attente? Nous avons joint lundi après-midi Lucie Bavrel, envoyée spéciale de RCF à Cayenne.
Les journées se partagent entre temps de louanges, messe, catéchèse. Ils prennent aussi, bien sûr, le temps de visiter la Guyane. Ils se sont rendus ce week-end aux îles du Salut, au large de Kourou. Ils prisent, puis bagnent. Les jeunes sont très soudés. Ils sont heureux d'être ensemble, de vivre ça ensemble, de partager ça ensemble. Ils ont très envie, évidemment, de se rendre à Rio pour vivre ces journées mondiales de la jeunesse. Notamment, et c'est ce qu'ils nous disent, ils ont envie de le faire pour Sophie, pour cette jeune fille qui a perdu la vie dans cet accident d'autobus mercredi dernier. Ça n'a fait que les rapprocher et ils sont ensemble dans la prière, mais aussi dans la joie de partager ça et de vivre ça ensemble, direction Rio.
Et après cette longue page consacrée au JMJ, au voyage du pape François au Brésil, nous passons à l'Égypte. La commission de révision de la Constitution, je vous le disais en titre, s'est réunie pour la première fois dimanche, malgré les protestations des frères musulmans exigeant le retour du président destitué, Mohamed Morsi. Cette commission d'experts, composée de 4 professeurs d'université et 6 magistrats, aura 30 jours pour élaborer des amendements à la Constitution adoptée en décembre dernier. Ces amendements seront par la suite présentés à une commission de 50 personnalités représentant les diverses composantes de la société, partis, syndicats, dignitaires religieux et armées. Cette commission élargie disposera à son tour de 60 jours pour remettre la version finale de la Constitution au président par intérim. Il reviendra alors au président égyptien Adli Mansour d'annoncer dans les 30 jours la date d'un référendum constitutionnel. Parmi les représentants religieux de cette commission élargie en voie de constitution, une délégation copte orthodoxe et une autre copte catholique. La communauté copte avait été la première à manifester des réserves à propos de la constitution provisoire. Elle entend une fois encore faire entendre sa voix. Écoutez Mgr Johanna Golta, vicaire patriarcal des coptes catholiques d'Alexandrie.
On peut résumer le problème, c'est presque une guerre silencieuse entre ceux qui veulent l'Égypte, un pays civil, un pays moderne, un pays civilisé, et ceux qui veulent l'Égypte, un pays du Moyen-Âge, contrôlé par la religion, contrôlé par les frères musulmans, contrôlé par les intégristes, les extrémistes. C'est ça le centre du problème. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que le courant civil, avec les 30 millions qui sont descendus le 30 juin, avance, augmente et devient de plus en plus fort. Les frères musulmans perdent chaque jour leur dignité, le respect du peuple égyptien à cause de tout ce qu'ils font contre ce peuple.
Quels sont les points clés qui vous tiennent à cœur et que vous voulez voir figurer dans cette constitution?
Nous voulons suggérer 3 points. L'Égypte, un État civil. L'Égypte, un État concentré, basé sur la citoyenneté, mais pas sur la religion. Et l'Égypte réalise la justice pour tous les Égyptiens et que tous les Égyptiens seront égaux devant la loi.
L'Égypte vit des moments de bouleversement historique. Quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui se passe?
Je suis très optimiste pour l'avenir. Ce qui s'est passé en Égypte, je dois le déclarer carrément. C'est un grand, grand miracle. C'était presque un rêve. Presque impossible faire tomber les frères musulmans avec toute leur force, l'arme et Hamas et les extrémistes en Sinaï. Mais ce qui se passait pour moi, c'est un grand, grand miracle. L'Égypte va en sortir. Malheureusement pour moi, comme évêque catholique, je regrette que l'Europe et l'Amérique n'ont pas encore compris qui est le peuple égyptien.
Mgr Johanna Golta, interrogé par Manuela Afigi. Israéliens et Palestiniens vont reprendre à Washington leur pourparlers de paix gelé depuis près de 3 ans. Ils ne se sont pas rencontrés officiellement depuis septembre 2010, quand leur discussion avait tourné court en raison de différends sur Jérusalem-Est et la colonisation israélienne en Cisjordanie. Mais les contours de l'accord de principe obtenu par le secrétaire d'État américain John Kerry restent flous, tandis que des deux côtés on pose déjà des conditions. Une attitude dénoncée sur notre antenne par le responsable de la custodie franciscaine de Terre Sainte. Selon le père Pizzaballa, à ce train-là, les discussions risquent de capoter rapidement. Il invite les deux parties à viser la paix avant leurs propres intérêts, en leur rappelant qu'elles devront de toute manière accepter des compromis. Le custode affiche la plus grande prudence. Sur place, indique-t-il, cet accord ne soulève pas beaucoup d'enthousiasme. Il y a eu tant d'échecs et la frustration est grande, mais on espère toujours que cette fois sera la bonne. Et puis sachez que le pape François a nommé un délégué pontifical pour la basilique Saint-Antoine à Padoue. Il s'agit de Mgr Vittorio Lanzani, délégué de la fabrique de Saint-Pierre. Cette émission est terminée, mais vous pouvez retrouver à tout moment toutes les informations sur les JMJ et le voyage du pape François au Brésil en consultant notre page internet www.radiovaticana.va. Vous pourrez y suivre les temps forts de la semaine en vidéo avec commentaires en français. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.